Philippe, 12 mai 83, Rimont.
Bien que ce soit l'ascension pour montrer la souplesse de la communauté, le cours qui normalement aurait lieu demain a lieu aujourd'hui. Et je crois que ça ne fera pas sortir de la contemplation de l'ascension. Puisque dans la lumière de l'ascension, nous devons comprendre toute la vie apostolique de Jésus. Et nous devons essayer de saisir la manière dont Saint Jean nous montre ce mystère. Nous étions arrivés au témoignage, au dernier témoignage, l'ultime témoignage de Jean-Baptiste. Ces deux grands témoignages de Jean-Baptiste qui, je crois, jouent un rôle extrêmement important dans toute la vision théologique de Jean sur le mystère de Jésus. L'agneau, l'époux. Nous retrouvons ces deux grands axes dans l'Apocalypse. C'est pour ça que je crois que là, il y a quelque chose de particulièrement important. Quand vous regardez l'Apocalypse, vous voyez bien le mystère de l'agneau comme immolé, qui est seul capable d'enlever les sceaux du petit livre que le Père tient dans ses mains. Ce lien entre l'agneau et le Père, et l'agneau immolé et le Père, qui est bien au cœur, on peut le dire, de l'Apocalypse, puisque c'est le point de départ de tous les symbolismes des sceaux. Et les symbolismes des sceaux représentent toutes les grandes décisions de Dieu, le mystère de la prédestination. Et puis le terme de l'Apocalypse, c'est les noces de l'agneau. C'est bien le mystère de l'époux qui termine, qui achève. Alors vous avez l'alpha et l'oméga de toute l'économie divine qui est prise par le mystère de l'agneau et le mystère de l'époux. Et dans l'évangile de Jean, vous voyez que Jésus, du moins que Jean-Baptiste, illuminé par l'Esprit Saint, donc infaillible, docile à l'Esprit Saint, découvre en Jésus l'agneau qui porte l'iniquité du monde. L'agneau, dans son mystère de miséricorde. Et après nous avoir montré les trois grands moments de ce mystère de l'agneau que nous avons vu, ces trois moments réservés au peuple d'Israël. Cana, c'est la Galilée, ce sont les amis. Jésus qui chasse les vendeurs du temple à Jérusalem. Alors c'est au cœur de tout le mystère d'Israël, le temple à Jérusalem. Et puis Nicodème qui est l'intelligence d'Israël. Le docteur de la loi. Ces trois moments qui nous montrent les trois grandes miséricordes de Jésus à l'égard de son peuple, et qui sont au point de départ de sa vie apostolique. Les prémices de la vie apostolique de Jésus sont réservées à Israël. Et c'est le mystère de l'agneau, d'une manière très spéciale, en misère, que Jésus voit dans le peuple. Là que nous y prenons. La miséricorde regarde toujours la misère. Une misère qu'on connaît ou une misère qu'on connaît, il s'agit de l'ordre de Dieu. On est enveloppé de la miséricorde de Dieu, on est enveloppé de la miséricorde de l'agneau. Et ici, ces trois moments de la vie apostolique de Jésus, ces trois premiers moments de la vie apostolique de Jésus, nous montrent bien les trois grandes misères du peuple d'Israël. Des misères qui sont à découvrir en quelque sorte cette misère du côté de l'amour humain, cette misère du côté de l'adoration, cette misère du côté de l'intelligence. Je crois qu'on peut dire qu'il y a ces trois grandes misères. Ce serait intéressant, du reste, je ne l'ai pas beaucoup vu avec vous, mais ce serait intéressant à creuser cela, parce que ça nous aiderait à mieux comprendre la situation du peuple d'Israël au moment où Jésus vient. Jésus, parce qu'il est mené par l'Esprit Saint, parce qu'il est sous la mouvance du don de piété, Jésus saisit tout de suite la misère qui est en nous. Nous, nous avons beaucoup de peine parce que nous regardons les choses de l'extérieur. Tandis que Jésus saisit tout de suite la misère. À Cana, à travers un geste miraculeux, changement de l'eau en vin, Jésus saisit la misère de son peuple. Ils n'ont plus de vin. Alors symboliquement, nous comprenons ce que ça veut dire. Le vin de la parole. Le vin des noces, qui est le vin de la parole de Dieu. Et le peuple d'Israël ne goûte plus la parole de Dieu comme il aurait dû le goûter la parole de Dieu. Il n'est pas assez entré dans le mystère de l'épouse. Il est resté trop lié à la loi. Serviteur. Et c'est pour ça que c'est les serviteurs que Jésus va demander ce service de verser l'eau. On pourrait dire que la loi, comparativement à ce que représente l'alliance de l'époux et de l'épouse, c'est comme l'eau. La loi réclame notre bonne volonté, n'est-ce pas ? La loi au sens strict réclame la bonne volonté, réclame l'adoration, réclame la justice, réclame l'amour aussi, mais c'est ce qu'il y a de plus profond dans la loi. Il y a une misère que nous devons découvrir à travers ce miracle de Jésus pour ses amis, pour ceux qui célèbrent leurs noces. Puis nous voyons cette autre misère, alors beaucoup plus visible à comprendre, cette confusion entre le sacré et le profane. Chaque fois qu'il y a un manque de ferveur, chaque fois qu'il y a une dégradation, c'est toujours de ce côté-là qu'on peut la détecter. On ne voit plus la différence entre le sacré et le profane. On ne comprend plus ce que c'est que la consécration à Dieu. Et on ne voit plus que l'aspect profane et qui est le point de vue immédiat du profit, de l'efficacité. Ces vendeurs savaient très bien ce que c'était, hein, leur métier. Là, ils avaient une certaine ferveur. Tandis que les gardiens du temple avaient perdu la ferveur et se laissaient intimider. Et Jésus n'accepte pas cela. Ça blesse son Père. Et c'est pour ça que ça blesse Jésus. Et la troisième misère du peuple d'Israël, c'est du côté de l'intelligence. Ce serait intéressant de voir par rapport à ce que l'Église vit actuellement. Qu'est-ce que nous ne touchons pas là comme trois grandes blessures, trois grandes pauvretés? C'est assez normal, hein, de voir des parallélismes comme cela. Ce qui est sûr, c'est que Jésus, comme agneau, vient aider Nicodème à sortir de sa confusion. La grande misère au point de vue de l'intelligence, ce sont les confusions. Et la confusion entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. C'est la pire des confusions. C'est de ne plus respecter l'absolu du surnaturel. De ne plus respecter cette naissance d'en haut. Et de tout ramener à la naissance selon la chair et le sang. Là encore, Jésus ne peut pas supporter cette confusion. Et Jésus vient pour éclairer, ramener la vérité. Après le cycle de l'agneau, nous avons ce témoignage de Jean-Baptiste à l'égard de Jésus. Nous l'avions vu la dernière fois. C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant de voir comment Jean-Baptiste restait au désert, sous l'action de l'Esprit-Saint, découvre le mystère de l'époux. Celui qui a l'épousé est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. C'est donc ma joie, la mienne, elle est en plénitude. Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. C'est peut-être, voyez, la très grande joie du mystère de l'ascension de Marie. Hein, si vous regardez attentivement dans la lumière d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est la plus grande joie de Marie, c'est de voir Jésus aller auprès du Père. Et elle de rester sur la terre, c'est le désert. Hein. Pour Marie, c'est pire que Jean-Baptiste, hein, de rester au désert et de savoir la joie de l'époux. Et elle est bien comme l'amie de l'époux, dans son humilité. Elle se tient là qu'il l'entend. Elle est ravie de joie à la voix de l'époux. La voix de l'époux, ce sera le don de l'Esprit-Saint. C'est vraiment la voix de l'époux, selon l'évangile de saint Jean, puisque la voix, c'est toujours l'Esprit. Et le don que Jésus nous fait de l'Esprit-Saint, c'est bien la voix de l'époux. Et c'est donc bien cette joie très très profonde que Marie ressent dans ce mystère de l'ascension. C'est pas étonnant, hein. Il y a un lien très fort entre Jean-Baptiste et Marie, on le sait très bien. Il y a un lien très mystérieux, c'est le premier enfant spirituel de la Très Sainte Vierge. Et Marie, comme elle garde le silence, ce sont ses enfants qui la trahissent, hein, qui disent ce qu'elle vit. Et Jean-Baptiste nous aide à comprendre le mystère de Marie. Il nous aide profondément lorsqu'il découvre l'agneau, lorsqu'il découvre l'époux. Et lorsqu'il découvre l'agneau, il découvre tout le mystère, si vous voulez, de l'Immaculée Conception. Parce que c'est à l'égard de Marie que Jésus a été le plus agneau, où la miséricorde a été le plus loin. Et le mystère de l'époux, c'est Marie dans le mystère de la croix. Et Jean prophétise, là. Il voit d'avance. C'est donc ma joie, la mienne, et elle est en plénitude. Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. Alors Jean-Baptiste, à partir de là, fait comprendre ce que Jésus vient apporter. Il reprend en parallèle, très net, ce que Jésus avait dit à Nicodème. C'est pas tout à fait le même style, mais c'est comme l'écho. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et terrestre aussi son témoignage, son langage. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ce qu'il a vu et entendu, c'est de cela qu'il témoigne, et son témoignage, nul ne le reçoit. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai. Celui que Dieu a envoyé parle en effet le langage de Dieu, car Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Celui qui croit en le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est le côté très violent de Jean-Baptiste, parce que c'est un homme du désert, et les hommes du désert sont souvent violents. Et alors on voit très bien ce qu'il manifeste ici avec une telle netteté. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit en le Fils a la vie éternelle. C'est cette foi dans le Christ qui permet de recevoir en plénitude la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous allons entrer maintenant ce que nous pourrions appeler le cycle de l'époux. Et vous allez tout de suite voir que dans ce cycle de l'époux, c'est-à-dire la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, Jésus qui rencontre l'officier royal de Capharnaüm à Cana, et Jésus qui à Jérusalem va à la piscine de Bethsaida pour rencontrer l'infirme, le doyen de la communauté, de cette communauté très spéciale, qui est particulière. On la verra bien, cette communauté, parce qu'elle nous éclaire sur le mystère d'une communauté. Et Jésus va à cette communauté. Il y a les deux communautés, la communauté auprès du temple et la communauté auprès de la piscine de Bethsaida. Je crois qu'il faut, pour bien comprendre ce cycle de l'époux que nous allons essayer de voir, et je crois bien qu'on peut dire le cycle de l'époux, vous allez saisir le symbolisme qui est propre à l'époux. Le symbolisme de l'agneau, c'est la miséricorde. Le symbolisme de l'époux, c'est la jalousie de l'amour. Et on comprend très bien comment Jean Baptiste introduit à cette jalousie de l'amour face à la jalousie passionnelle, religieuse de ses disciples à l'égard des disciples du Christ. Jean montre le mystère de l'époux. Et Jésus va nous faire comprendre le mystère de l'époux. Il va le faire comprendre le mystère de l'époux en rencontrant la Samaritaine. Nous découvrons l'époux dans cette rencontre de Jésus à l'égard de la Samaritaine. Dans cette rencontre de Jésus à l'égard de cet officier royal de Capharnaüm. Et la rencontre de Jésus auprès de l'infirme à la piscine de Bethsaida. Là, nous découvrons la jalousie de l'époux. Et c'est assez significatif que vous avez là le début de la vie apostolique de Jésus qui dépasse le peuple d'Israël. Tout de suite, Jésus va au-delà des conventions. L'amour ne connaît pas de conventions. L'amour les brûle. Normalement, un juif ne parle pas à une samaritaine. Et Jésus a pris l'initiative. Et donc, Jésus ne tient pas compte de ses coutumes, parce que son cœur d'époux est trop brûlant. Et il veut tout de suite aller au-devant de la Samaritaine. La Samaritaine, vous voyez, c'est la sœur séparée, hein, on dirait aujourd'hui. On voit tout à fait ce point de vue-là. Celle qui n'est pas tout à fait dans la ligne orthodoxe, un peu à côté. Alors, Jésus prend l'initiative. Et c'est un grand dialogue, analogue à celui de Jésus avec Nicodème, mais juste l'extrême opposé. Nicodème, c'est un notable, Nicodème fait partie du Sanhédrin, la Samaritaine, elle est Samaritaine. Et parmi les Samaritaines, elle n'a pas une place particulièrement reluisante, puisque nous savons qu'elle a eu 5 maris et qu'elle est réduite à la corvée d'eau en plein midi, ce qui n'est pas très fameux. Pendant que les hommes font la méridienne, on voit la Samaritaine fredonner son petit air particulier, si elle était de notre temps. N'est-ce pas ? De son temps, je crois qu'elle se tait. Mais on sent le poids d'amertume, de tristesse qu'il y a dans le cœur de la Samaritaine. Jésus brise les conventions. L'amour brûle les conventions. Quand il s'agit de rencontrer le de rencontrer cet officier royal de Capharnaüm, Jésus dépasse les frontières. Cet homme n'est pas du peuple d'Israël, c'est bien évident. Il n'a pas la foi. C'est un homme religieux. Il n'a pas la foi. Il ne fait pas partie du peuple d'Israël. La Samaritaine, c'est à côté, mais elle a quand même la foi, la Samaritaine. Elle attend un prophète. Elle a la foi et l'espérance. Mais au moment où Jésus l'a rencontrée, la charité était assez diminuée dans son cœur. Ce n'est pas ça qui l'emportait. Et ce père, c'est un étranger. Et le troisième que Jésus rencontre, il est considéré comme un excommunié, comme un rejeté. À la piscine de Bethsaida, ce n'est pas précisément le peuple d'Israël qui a conscience de se bien conduire qui est là. Ce n'est pas les pharisiens, c'est les rejetés. C'est vraiment ceux qu'on met loin. Ils n'ont plus droit de citer. C'est celui-là que Jésus regarde. Voyez les trois dépassements des frontières que fait l'amour. Je crois qu'on peut aller encore un peu plus loin. C'est pour essayer de saisir la théologie du mystère de l'époux. C'est très important de saisir la théologie du mystère de l'époux. On peut saisir la théologie du mystère de l'époux à travers ces trois rencontres. C'est ce qu'on essaiera de faire. Parce que ça, c'est important. C'est là où on entre dans la théologie mystique. Déjà la miséricorde, mais bien comprendre que la miséricorde nous introduit dans l'amour jaloux. Et c'est l'amour jaloux que nous devons regarder en premier lieu en théologie mystique. Il faut aller jusque-là, autrement on ne pénètre pas vraiment dans le mystère de Jésus. Jésus est l'époux. Et le sacerdoce du Christ regarde l'agneau et l'époux. Il regarde les deux. Et c'est par l'agneau qu'on entre dans le mystère de l'époux. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Eh bien, vous êtes en présence des trois grandes situations limites de l'homme. L'humanité prise concrètement, c'est la femme, c'est l'enfant et c'est l'homme. L'écriture n'a pas un langage abstrait. L'écriture a toujours un langage concret. Alors, concrètement, l'humanité, c'est la femme, c'est l'enfant et c'est l'homme. Et il y a trois situations limites différentes pour la femme, pour l'enfant et pour l'homme. Et je crois qu'on peut dire qu'ici, on est vraiment en face de ces trois situations limites. Non seulement ces trois sont en dehors du peuple d'Israël, mais ces trois représentent vraiment une situation extrême. La situation limite, telle que les philosophes l'entendent aujourd'hui, les théologiens ne l'ont pas beaucoup encore exploité, mais je crois qu'on pourrait très bien s'en servir pour faire la théologie de ces trois moments. La situation limite, c'est quand l'homme est pris par un conditionnement humain tellement lourd qu'il ne saisit plus sa finalité. Il est vraiment sous l'avalanche. Et c'est tout juste s'il ne meurt pas. C'est ça la situation limite. Il meurt dans son cœur, il meurt dans son intelligence, il meurt dans sa vie. C'est les trois situations limites que nous pouvons voir. Eh bien, ici, nous voyons bien la situation limite de la femme. La situation limite de la femme, c'est la situation de celle qui n'est plus aimée et qui n'aime plus. C'est la situation de celle qui non seulement n'est plus aimée et n'aime plus, mais celle qui a été aimée et qui n'est plus aimée, qui a été rejetée. 5 fois, c'est quand même quelque chose. 5 brisures. Pour un psychanalyste, ce serait remarquable, la Samaritaine. Alors on va voir comment Jésus nous fait comprendre la psychanalyse. Parce que là, c'est tout à fait cela. C'est tout à fait l'évangile qu'on doit lire aux psychanalystes. Et pas seulement aux psychanalystes, mais à tous ceux qui voient les blessures du cœur, et les blessures en profondeur du cœur, qui font que cette femme devient incapable d'aimer. elle n'a plus aucune confiance en elle. Elle est blessée. Et c'est Jésus qui va lui redonner la vie. La situation limite de l'enfant, c'est quand il agonise. Il n'y a rien de plus terrible de voir un enfant qui agonise. Une grande personne qui agonise, un vieillard qui agonise, ce n'est jamais très beau à voir. Mais un enfant, c'est terrible. Parce qu'un enfant ne dit pas son mal. Et un enfant souffre. Et quand un enfant agonise, c'est terrible pour les parents. Et alors nous voyons bien ici cette situation limite de cet enfant. C'est la situation limite de la famille. C'est quand un enfant agonise. C'est comme une brisure. C'est toute la famille qui est comme brisée. Or, Jésus est face à cette situation limite de la famille et du père et de l'enfant qui agonise. Et la situation limite pour un homme, c'est pas seulement d'être au chômage. Ça peut devenir des situations limites. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est d'être infirme, incapable de travailler. Celui qui est chômeur, il attend. C'est pas drôle, mais il attend. Tandis que celui qui est infirme, il ne peut pas travailler. Et celui qui est infirme dans une communauté qui ne l'aime pas, dans une communauté qui est complètement indifférente vis-à-vis de lui, et qui manque de délicatesse. Il est dans une communauté qui n'a qu'un seul désir, c'est que chacun des membres n'a que le désir de sortir de cette communauté. Le bien commun de cette communauté, c'est d'en sortir. Ça, c'est une illustration pour le bien commun. Il désire qu'une seule chose, c'est d'en sortir. Et on le voit très bien, le plus vite possible. Ça devait être une course extraordinaire quand il y avait le bouillonnement de l'eau. On essaiera de comprendre ce que c'est que ce bouillonnement de l'eau. Demandez-le aux exégètes, à nos chers amis les exégètes, demandez-leur. Ils sont très très gênés quand il s'agit du bouillonnement de l'eau. Ça, c'est un petit problème qui est très très intéressant à voir. Qu'est-ce que ça représente, ce bouillonnement de l'eau ? À ce moment-là, vous savez ce qu'on dit, il y avait deux courants différents, alors quand les eaux causaient, il y avait un bouillonnement d'eau. Oui, mais toute la difficulté, c'est de voir que ce bouillonnement est efficace. Qu'à partir de ce bouillonnement, ce premier qui plonge là-dedans, il est guéri. Merveilleux, ça. À Lourdes, il n'y a pas besoin de bouillonnement. Hein. C'est même l'eau stagnante. Hein. Dans les piscines, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de beau de voir ça. C'est, le bouillonnement, c'est l'eau vivante. Et on se plongeait là, le premier. Alors il devait y avoir une course étonnante. Et ce pauvre infirme, la situation impossible. On voit, il est désespéré, il est plein d'amertume. Pas beaucoup de charité fraternelle vis-à-vis de ceux qui sont autour de lui. Et pas beaucoup de charité fraternelle des autres vis-à-vis de lui. Ça, c'est bien évident. C'est une situation limite de l'homme dans une communauté. Les autres, c'est la famille. C'est même très curieux de voir l'époux et l'épouse, la famille, la communauté. Il y a trois situations limites, parallèlement et successivement. C'est merveilleusement structuré, vous voyez. Si j'essaie de comprendre un peu, et je crois qu'il faut comprendre tout l'évangile de Saint Jean de cette manière-là, parce qu'il est le théologien. Alors, comme il est le théologien, il nous donne un ordre de sagesse divine. Il y a un ordre de sagesse divine qu'il faut découvrir, et qu'il faut découvrir dans la lumière de Jésus, et dans la lumière de Jésus époux. Donc, comprendre que la jalousie de l'époux se révèle quand l'homme est en situation limite. Au fond, nous ne comprenons la jalousie de l'époux que quand on est dans une situation limite. Quand tout va bien, on ne comprend pas. Les disciples de Jean-Baptiste, hein, ils avaient le temps d'être jaloux. D'une jalousie passionnelle. Ils avaient le temps, parce qu'il y avait un certain bien-être. Quand on est dans une situation limite, on n'a plus le temps d'être jaloux. On n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'attendre le secours de Dieu. Et on ne peut plus regarder les autres. La Samaritaine, elle n'ose pas regarder les êtres humains. Elle n'a même pas vu Jésus qui était là. l'enfant qui agonise, mais il agonise. Quand on est en agonie, on est seul en présence de Dieu. Et l'infirme à la piscine de Pet-Satan, il est aussi dans une situation limite. Je crois que c'est très important de saisir ces trois pour mieux comprendre, on essaiera, qu'est-ce que c'est que la jalousie de l'époux. Qu'est-ce que représente dans le sacerdoce de Jésus? Le sacerdoce de Jésus, c'est le sacerdoce de l'agneau, c'est le sacerdoce de l'époux. Et le sacerdoce de l'agneau, c'est la miséricorde, c'est un sacerdoce plein de miséricorde. C'est pour ça qu'il faut aller si loin dans la miséricorde, si on est dans le sacerdoce de Jésus. Et c'est le sacerdoce de l'époux, c'est-à-dire la jalousie de l'amour. Une jalousie de l'amour capable de se servir de la situation limite de la femme, de l'enfant, et de l'homme pour pouvoir se donner pleinement et totalement. Ça va plus loin. La miséricorde regarde la misère, la jalousie de l'amour regarde la situation limite. La situation limite, c'est au moment où on a l'impression que tout va crouler. Alors, entrons tout de suite. Nous allons au moins commencer, et faisons comme pour Nicodème. Alors la différence est évidemment que c'est moins logique que Nicodème, c'est pas étonnant. Jésus s'adapte merveilleusement à son personnage. Alors on ne va pas demander à la Samaritaine d'être logique. Tandis qu'à Nicodème, on pouvait lui demander. C'est pour ça que Jésus à Nicodème donne une grande leçon de théologie. Je n'oserais pas dire que le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, c'est une grande leçon de théologie. Ce n'est pas tout à fait une grande leçon de théologie. Mais c'est vraiment aussi une leçon de théologie. Et d'une manière très particulière. Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples, et en baptisait plus que Jean, et pourtant ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Remarquez la réaction différente de Jésus de celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est cloué au désert, il ne peut pas quitter ses disciples, même quand ils sont dans un état de crise. Il est bien obligé de rester là. Ils sont en état de crise puisqu'ils sont en état de jalousie. C'est pas drôle de voir tous ces disciples en état de jalousie, furieux, accusant Jean-Baptiste d'avoir témoigné pour Jésus. Jean-Baptiste est obligé de rester là. Jésus, lui, il s'en va. Dès que Jésus voit un climat pourri par la jalousie, il s'en va. Immédiatement, on voit très bien. Il est beaucoup plus libre. Il n'est pas rivé au désert. Il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Il lui fait aller traverser la Samarie. On voit bien l'itinéraire, hein. Ceux qui l'ont fait connaissent bien le passage par la Samarie. Aujourd'hui, ça ne se fait pas tout le temps à cause des climats de guerre, mais normalement, c'est la route très belle quand on va justement de Judée en Galilée, en passant par la Samarie. Il lui fallait traverser la Samarie. Il vint donc dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du domaine que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Donc on rappelle, vous voyez, tout ce que ça représente. Hein. C'est intéressant parce que ça montre tout l'aspect de la tradition religieuse qui est là. Il vint donc dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du domaine que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Le Pérostie traduit la source de Jacob. Le puits de Jacob. Jésus donc, fatigué du voyage, était assis à même le puits. C'était environ la sixième heure. On voit très bien le spectacle. On voit très bien cette attitude de Jésus fatigué. prétexte la fatigue. Il est fatigué, c'est sûr, il a voyagé. Mais c'est saint Augustin qui souligne la fatigue de Jésus. D'habitude, Jésus ne montre pas beaucoup sa fatigue. C'est très rare que Jésus montre sa fatigue. Je crois que les apôtres devaient être fatigués avant Jésus. Je crois, à cause de l'intensité d'amour qu'il y a dans son cœur. Mais ici, si Jésus est fatigué, c'est pour être à l'écart. C'est une merveilleuse excuse divine pour être à l'écart. Mais de temps en temps, il faut avouer sa fatigue pour être à l'écart. Et le Seigneur vous met alors à ce moment-là dans la solitude. C'est bien ça, Jésus va rester seul. Quand les disciples sont là, il ne peut pas dire « j'ai besoin d'être seul ». Allez, partez. Allez, pour l'organisation du repas. Allez-y, vous. Moi, je vais rester là. Non, il est fatigué. Alors, tout le monde accepte. Jésus, donc, fatigué du voyage, était assis à même le puits. C'était environ la sixième heure. Vint une femme de Samarie. Donc, les disciples sont partis, Jésus est seul. C'est intéressant aussi de noter ça. Jusque-là, Jésus a réalisé sa vie apostolique avec les apôtres. On dirait aujourd'hui en collégialité. N'est-ce pas ? Il a vraiment fait sa vie apostolique avec ses apôtres. Il les éduque en les emmenant avec lui. C'est un noviciat merveilleux au point de vue de la vie apostolique. Il les emmène. Et les emmener à Cana, je ne sais pas si les douze étaient là ou vous n'étiez pas là, les emmener à Cana, il y en avait au moins cinq. Il les emmenait sûrement à Jérusalem, les douze. Puis, il les a emmenés aussi auprès de Nicodème. Mais près de Nicodème, je crois que les apôtres étaient très discrets, étaient un petit peu par derrière. Pour laisser seul Jésus avec un docteur en Israël. Les apôtres, des Galiléens avec un docteur en Israël, vous voyez, ça c'est sûr. Mais quand même, ils sont là, sans témoin. Ici, Jésus est seul. Les apôtres sont partis pour l'organisation du repas. Ils sont toujours très friands d'organisation, on voit très bien ça. Environ la sixième heure, vient une femme de Samarie pour puiser l'eau. Il fallait que Jésus soit seul pour rencontrer la Samaritaine. Ça aurait été impossible. On ne peut pas rencontrer un malade avec trop de bien-portants. On ne peut pas, ça gêne. C'est impossible. Il faut être seul. Et Jésus doit être seul pour que la Samaritaine puisse ouvrir son cœur. Direction spirituelle, hein, l'ouverture du cœur. On la voit bien ici. Vient une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, il y a dû avoir un moment de silence, hein, n'oubliez jamais les moments de silence dans l'évangile de Saint Jean. C'était le père Laversin qui disait ça. Et il faudrait réécrire l'évangile de Saint Jean avec les silences. C'est vrai, il y a des moments de silence, parce que nous, on met ça à la suite comme ça, alors ça va très vite. Je suis persuadé qu'il y a eu un moment de silence. Donne-moi à boire. C'est Jésus qui prend l'initiative. Ses disciples, en effet, étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La femme samaritaine lui dit donc, comment toi qui es juif, qui me demande à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine. Il y a quelque chose d'anormal. Vous voyez comment Jésus brise les conventions. Jésus est au-delà, l'amour est au-delà des conventions. C'est quelque chose qui dépasse. Selon les coutumes religieuses, eh bien, un juif ne parle pas à la samaritaine. Comme il y a quelques années, on aurait dit un catholique ne parle pas aux protestants. quelque chose d'analogue, où les protestants n'aiment pas beaucoup de parler aux catholiques, et les samaritaines n'aimaient pas beaucoup de parler aux juifs, parce qu'ils montraient leur supériorité. Comment, toi qui es juif, ça c'est la stupéfaction, c'est l'étonnement, tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. J'en souligne nettement. Jésus répondit et lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Voyez le caractère extraordinairement direct de la vie apostolique de Jésus. On voit exactement la même chose par rapport à Nicodème. Jésus saisit tout de suite la misère de l'homme, la misère du cœur de l'homme. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur ou l'intelligence, mais la répercussion de l'intelligence sur le cœur, si on est satisfait de soi. La pauvreté d'un pharisien, c'est qu'il est satisfait de lui-même. Et ici, la pauvreté de cette femme, c'est qu'elle ne savait plus demander. Il y a des moments où on n'arrive plus à demander. On n'arrive plus à demander parce qu'on a tellement été déçu. Alors il n'y a plus de désir. Et notre cœur est comme replié sur lui-même et comme éteint. Le désir, ça exprime encore un ressort qui veut bondir. Un cœur qui désire est un cœur qui veut grandir et qui veut aller plus loin. Quand le ressort est cassé, il n'y a plus de désir. La situation de cette femme, c'est là où je dis qu'elle est en situation limite. Et Jésus saisit tout de suite cette blessure. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez, cette attitude du Christ, il a pris l'initiative, il l'a réveillé de son sommeil. Il faut de temps en temps réveiller les gens de leur sommeil. « Donne-moi à boire ». Le mot d'ordre, vous savez bien, c'est une rencontre auprès du puits. Et vous voyez bien les rencontres auprès du puits. C'est la rencontre du serviteur d'Abraham qui vient chercher une épouse pour le petit Isaac. C'est la rencontre de Jacob qui rencontre Rachel. Et il y a toujours la même affirmation, donne-moi à boire. Vous avez trois fois répété cela. Il y a encore une autre rencontre auprès du puits, mais c'est moins net. Hein. C'est Moïse, parce qu'il en rencontre six. Alors c'est moins net. Tandis qu'ici, c'est plus particulier. Ce n'est pas une rencontre au sens très très fort. Il en a épousé une parmi les six. Hein. La femme de Moïse, c'est pas drôle d'être femme de législateur, vous savez, c'est pas. Alors elle est laissée un peu de côté, la femme de Moïse, ça c'est sûr. Le beau-père va jouer un rôle important. Plus important que la femme, on a l'impression. Si tu savais le don de Dieu. Donc Jésus la réveille de sa torpeur. Donne-moi à boire. Jésus se fait le mendiant de la femme. Lui, juif, il se fait le mendiant de la femme et de la samaritaine. Il se fait le mendiant de la pécheresse. Il le sait. Il lui demande un service. Donne-moi à boire. C'est pas grand-chose, parce que l'eau, on la puise dans le puits. Non, l'eau, on la puise dans le puits, alors on peut la prendre directement, ça ne se vend pas. Et donc, c'est gratuite. Et c'est ce que Jésus réclame, « Donne-moi à boire. » Il n'a même pas de troupeau derrière, hein, parce que le troupeau est parti chercher la nourriture. Alors il n'est plus là. On dit que Jésus est seul. « Donne-moi à boire. » Il la réveille devant quelque chose d'étonnant. Elle n'avait jamais pensé à ça. Un jeune juif, Jésus a 30 ans, qui demande à cette femme abîmée par la vie, usée par la vie. Elle est vieille avant l'âge, hein, la Samaritaine. Ça, sûrement. C'est vrai, il y a un contraste étonnant, même au point de vue purement humain. Mais alors, plus profondément au point de vue religieux, et alors plus profondément au point de vue divin. Un contraste étonnant de voir que l'époux se fait mendiant. Il se fait mendiant. Il demande. Lui, qui est source d'amour. Il se fait mendiant pour apprendre à la Samaritaine à demander, parce qu'elle ne sait plus demander. Son cœur est trop lourd, son cœur est trop appesanti, alors elle ne sait plus demander. Et Jésus va réveiller en elle, vous voyez, la pédagogie divine, hein. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. La pédagogie de Jésus par rapport à Nicodème, la pédagogie de Jésus par rapport à la Samaritaine. Ce sont deux pédagogies tout à fait différentes. Hein? Tout à fait différentes l'une de l'autre. Mais ce sont deux pédagogies merveilleuses. Là, on découvre ce que c'est que la pédagogie divine. Mais voyez, chaque fois, ce que Jésus veut, c'est saisir le cœur. Et c'est ça, je crois, qu'on doit retenir. Ce n'est pas les choses secondaires. Les choses secondaires n'aboutissent pas, c'est vrai, ça ne conduit pas au mystère que Jésus veut communiquer. Il veut communiquer le mystère de la grâce, il veut communiquer le mystère de l'amour. Et donc il faut réveiller le cœur, il faut le mettre le cœur en attente de cela, pour pouvoir communiquer cet amour, pour pouvoir communiquer la grâce. Et donc il faut aller directement à ce qui est plus profond. Si tu savais le don de Dieu. Et en même temps, vous voyez, il y a tout cet aspect où Jésus veut maintenant éveiller sa curiosité à l'égard d'une femme. Hein, c'est bien. Si tu savais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu ne sais pas c'est qui. Oui, tu as vu que c'était un juif, mais c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui va plus loin. C'est toi qu'il en aurait prié. Donc Jésus fait bien la démarche pour elle, la démarche de demande, pour l'éduquer à demander. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors c'est le symbolisme de l'eau vive que nous devons découvrir ici. Alors c'est intéressant par rapport à Nicodème. Nicodème, c'est la naissance, selon l'eau et l'esprit, et ici, c'est le symbolisme de l'eau vive. Alors il faudra essayer de comprendre pourquoi la naissance, nous l'avons vu, et pourquoi le mystère le symbolise de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Comment donc l'aurais-tu, cette eau vive ?» C'est très curieux qu'on trouve un peu d'humour chez Nicodème, et puis un autre humour très différent chez la Samaritaine. Ça prouve qu'elle commence à se réveiller, vous voyez. Elle reprend un tout petit peu de dignité. Oui, parce que il faut avoir une certaine supériorité pour faire un peu d'humour. Hein. Et elle a une supériorité sur Jésus. Une seule. Elle a une cruche. C'est la seule supériorité qu'elle a sur Jésus. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui de l'humanité en face de Dieu. L'humanité a une technique. Et l'humanité est très fière de sa technique en face de Dieu. Dieu n'a pas de technique. La cruche ou une technique pour aller jusque dans la lune, ça rien au même, hein. C'est du même ordre. C'est exactement du même ordre. C'est un outil, la cruche. Et elle a cette supériorité sur Jésus. Et elle le saisit tout de suite. Elle a d'abord reconnu, hein, dans l'état dans lequel elle était, elle a reconnu humblement, un juif ne parle pas. C'est pas vraiment une humilité quand elle dit ça. C'est plein d'amertume. Hein. C'est plein d'amertume. Il y a une vieille amertume ancestrale là-dedans. Un juif ne parle pas une samaritaine, une femme samaritaine. C'est net. Et puis ici, elle redevient elle-même Seigneur. Tu n'as rien pour puiser. Il parle de l'eau vive. On comprend qu'il soit mendiant parce qu'il n'a pas de cruche. Mais promettre de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Comment donc l'aurais-tu cette eau vive? Voyez le commodo, le comment. Comment donc l'aurais-tu cette eau vive? Alors elle continue de reprendre sa dignité et sa supériorité sur Jésus. C'est extraordinaire de voir ça. Comme ça renaît vite. Hein. Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob? Ah, nous avons un puits. C'est le puits de Jacob. Toi, tu es un juif. Tu as le temple. Et nous avons les hauts lieux. On voit très bien tout ce qui est impliqué dedans. Hein. Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu, lui, ses fils et ses bêtes? Oui, nous retrouvons l'œcuménisme de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est toujours là. On va toujours au puits, vous savez bien, c'est le berger qui voit, et puis derrière lui, tous, ils vont, ses fils et ses bêtes. C'est vrai, ils prennent tous de l'eau, n'est-ce pas? Ils ont tous la même nourriture. Et quand on a soif, on peut boire à côté d'une petite chèvre. Quand on a soif. On est au réfectoire, c'est différent. Non mais autrement, quand on a soif, on peut boire une petite chèvre. C'est pas gênant du tout. On a soif. Elle aussi a soif. On retrouve quelque chose de commun. Et c'est souligné, ça, dans l'Ancien Testament. C'est très beau. C'est très, très beau, ça. Parce que ça montre la profondeur de la soif. Ça montre la profondeur de la soif. Et c'est vrai, quand un désir est très, très intense, et toutes les diversités secondaires disparaissent. C'est vrai, ça. Et on les voit dans les moments de très grande détresse, c'est très curieux. Vous voyez, on voit même ça dans les moments de grève, ou de grève d'autobus, de métro. C'est toujours une des choses qui est très, très particulière à sentir, qu'immédiatement, toutes les diversités cessent. On est là à demander à n'importe qui un service. C'est n'importe qui peut demander le service. Et on est tous proches les uns des autres. Alors on voit très bien ses fils et ses bêtes. Ça va jusque-là. C'est important de voir comment la Samaritaine, face à Jésus, dans sa misère, retrouve d'abord son avoir. Elle a une cruche. Elle en est très fière, ça. Ça se sent. Comment donc l'aurais-tu cette eau vive? Puis ensuite, la tradition religieuse. Et cette tradition religieuse qui lui permet justement d'avoir ce puits de Jacob. Et de voir que ce puits de Jacob, depuis Jacob, jusqu'à la Samaritaine, a servi à tous. Jésus répondit et lui dit, « Qui donc boit de cette eau aura encore soif ? Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Alors là, la comparaison entre l'eau du puits de Jacob, si digne que soit le puits de Jacob, et l'eau vive. Alors il faut écouter saint Augustin là. Saint Augustin dit des choses très étonnantes à la manière de saint Augustin quand il fait cette comparaison entre les deux. Il montre bien le puits de Jacob et puis l'eau vive. L'eau vive, c'est l'eau qui est liée à sa source. C'est l'eau qui jaillit de la source. Tandis qu'au contraire, le puits, c'est le lieu qui garde l'eau. C'est pas la même chose. Alors voilà toute la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et c'est très beau. On garde la parole de Dieu. Et Jésus nous apporte une parole vivante. Et c'est vrai la différence entre la loi et la parole vivante de Jésus. Quiconque boit cette eau aura encore soif. Cette eau qui est celle du puits, n'étanche pas la soif. Elle l'étanche momentanément, parce que c'est une soif selon notre vie humaine, biologique. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. C'est autre chose. C'est une eau vive. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante en vie éternelle. Ce n'est pas seulement l'eau qu'il donnera, mais c'est la source. Chose plus étonnante encore. Et l'eau vive, c'est cela. C'est non seulement le don de l'eau. Là il bat la femme sur son propre terrain. Tu vois? Parce qu'une source, on ne la prend pas avec la cruche. C'est bien évident. On peut recevoir l'eau, on peut garder l'eau avec la cruche, mais là, il y a quelque chose de mystérieux. Et Jésus pousse là, jusqu'au bout, cette analogie. Hein. C'est pour faire comprendre cette comparaison, pour faire comprendre qu'il y a là quelque chose que la femme n'a pas saisi. Jésus vient donner une nouvelle vie. Et pas seulement un aliment. C'est bien un aliment qu'il vient donner, mais en même temps quelque chose d'autre, une source. Et l'eau que moi, je lui donnerai... Et donc, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne me rende plus ici pour puiser. Là, elle dit la lassitude, hein. Elle en a par-dessus la tête de puiser régulièrement cette eau. Très, très bien, c'est la corvée. Alors là, c'est plus du tout. Hein. Sa dignité d'avoir la cruche, elle disparaît complètement. Elle va avoir la source. Donne-la-moi cette eau. Vous voyez, Jésus a éveillé en elle un nouveau désir. Elle comprend rien du tout. Elle fait exactement les mêmes confusions que Nicodème. Et ça, c'est très très beau de voir que Nicodème, aussi bien que la Samaritaine, font les mêmes confusions. Pourtant, ce n'est pas tout à fait le même gabarit d'intelligence. Nicodème et la Samaritaine. Alors, ad modum recipientis, hein, quand on voit bien la question de l'intelligence de Nicodème et l'intelligence de la Samaritaine, tous les deux font la même confusion. Ils prennent les paroles de Jésus matériellement, à les places, plutôt de les recevoir divinement. Matériellement la naissance, matériellement l'eau vive. Matériellement la source liée à cette eau vive. Donne-la-moi. Et elle montre très bien cette eau. Et aussi l'efficacité, hein, très très bien. On n'aura plus à travailler. C'est merveilleux. On est tous d'accord pour recevoir le Christ si on n'a plus à travailler. On est tous d'accord, c'est bien évident. Jésus aurait un succès monstre du fait même qu'on adhère à son mystère, on n'aurait plus à travailler. Ce serait la planque. Merveilleuse. On serait uniquement, il n'y aurait plus que ça. Jésus nous donnerait ça. C'est pas ça du tout. C'est très important de saisir ça, parce qu'on voit très bien que Jésus éveille un désir. Il éveille un désir. L'eau vive. Cette femme qui vient chercher l'eau. Et Jésus se sert de ce symbolisme de l'eau. Et évidemment, à travers toute l'écriture, on trouve le symbolisme de l'eau. Donne-moi à boire. Ça se trouve toujours les puits. Ça joue un très grand rôle. Mais Jésus se sert de ce symbolisme de l'eau pour quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui va être son enseignement propre à cette femme. Donc, au moment où la femme fait une demande, elle est à moitié guérie. Jésus l'a réveillée, et réveillée de manière telle qu'elle supplie. Jésus, donne, Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne me rende plus ici pour puiser. Elle est même impatiente, hein? On voit très très bien, elle est impatiente. Jésus lui promet là, il faut qu'elle l'ait tout de suite. Il lui dit, va, appelle ton mari, et viens ici. Ça commence à devenir un peu tragique. Jésus là, directement, saisit la blessure de son cœur. Va, appelle ton mari, et viens ici. Elle a dû avoir un moment de silence, elle a dû baisser la tête à ce moment-là. Parce que là, elle regardait Jésus bien en face. Je crois, c'est très heureuse d'être une femme samaritaine qui pouvait parler à ce jeune juif et puis lui montrer comme quoi elle était capable de répondre. Puis alors, elle demande. Puis alors, voilà que Jésus dit la parole qu'il ne fallait pas dire. Situation gênante. Va, appelle ton mari et viens ici. Vous voyez la psychanalyse divine comme elle va directement, hein, c'est directement, c'est pas tourné indéfiniment, non, c'est direct. La femme répondit et elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5. Et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Jésus souligne, elle dit une vérité. La vérité, c'est qu'elle n'a pas de mari. Elle n'en a plus. Vous voyez, c'est là où on trouve le tournant de ce discours, très étonnant du reste. Jésus a pris l'initiative. Au moment où il dévoile la misère de cette femme, et rapidement, il enlève les cataplasmes successifs, toutes les cicatrices successives, hein, puisqu'il y a eu ces différentes rencontres, qui toutes étaient fausses, hein, à partir de la première qui n'était plus ce qu'elle devait être. Jésus immédiatement enlève tout cela pour remettre cette femme en face de sa vérité.